multi.
Sonore. Multisonore.
Multisonore présente
555
de Hélène Gestern,
lu par Amélie Beloratsky,
Alain Pochet,
lu par Florian Wormser, André Nerman,
lu par Thierry Blanc,
Anne Kress.
Grégoire Coblence. 1. Le velours vert forêt s'est décollé dans un bruit de déchirure. Il était fendu en son centre, râpé jusqu'à la trame. Avant de le soulever, j'avais dû ôter un par un les clous qui le retenaient, si vieux que leur tête s'effritait sous la tenaille. Puis j'avais poursuivi la découpe avec un bistouri de chirurgien, prenant garde de ne pas entailler les rebords auxquels l'étoffe était fixée. Le tissu, en s'écartant, avait libéré une odeur douce et poussiéreuse. Première surprise, le bois du fond de l'étui était en excellent état. Il était formé d'une mince planche de chêne aux veines puissantes. D'ordinaire, on les choisissait plutôt en sapin, vierge de moisissure et de vermoulure. Deuxième surprise, un fascicule cartonné, plié en deux, gisait sous la doublure. J'ai scruté l'ensemble avec attention. Cet étui avait au moins 100 ans. C'était une caisse de bois aux angles marqués, sans les rembourrages sophistiqués et les formes arrondies des étuis contemporains. Il était tapissé en son fond et sur ses bords d'une épaisse couche de velours aujourd'hui mangée au mythe. Le frottement du textile pendant des décennies avait déteint sur les fibres, dessinant, comme par décalcomanie, le contour du violoncelle qu'il avait abrité. J'ai d'abord ôté le cahier, en prenant 1000 précautions. Puis scruté le fond. Passer la main à l'emplacement où on avait déposé le cahier m'a révélé l'existence d'une discrète dénivellation. Une sorte de logement, pas plus de 2 centimètres d'épaisseur, ménagé dans le plancher de l'étui. Il avait été creusé avec tant de soin qu'il était invisible à l'œil nu. Sans une légère différence de coloration sur ses rebords, je ne l'aurais peut-être pas remarqué. Au milieu des lambeaux du tissu, on pouvait voir les restes d'une ancienne fermeture à glissière. C'est par là qu'on avait dû en son temps glisser le cahier. J'aurais pu et certainement dû m'arrêter là. Poncer, aspirer, nettoyer et garnir l'étui avec un revêtement neuf. Cependant, il y avait ce cahier, surgi du ventre de l'instrument, et la curiosité qu'il m'inspirait. Le dispositif qu'il avait hébergé m'intriguait tout autant. Si je replaçais les pages là où je les avais trouvées, la nouvelle doublure les rendrait inaccessibles. Après tout, je ne risquais rien à jeter un coup d'œil à ce fascicule gris avant de le rendre à son propriétaire. Ce qu'on avait inséré, fourré, devrais-je dire, vu la pliure médiane, était une mince brochure de 4 pages, protégée par une couverture cartonnée. Le vert du tissu n'avait pas d'étain sur elle, mais le carton était fané, presque friable. Quand je l'ai déplié, des grains de poussière ont dansé dans le soleil. J'ai reconnu immédiatement les lignes qui réglaient les pages et les notes qui s'y accrochaient en zigzag. C'était une partition. Il n'est pas rare qu'on tombe sur des objets dans les étuis des instruments, surtout quand les doublures sont anciennes. Une clé, un ticket de métro, une vieille photo. Et même une fois, un deuxième téléphone dans un rembourrage, celui d'un mari ou d'une femme infidèle, avais-je supposé. Sauf qu'en général, ils sont coincés, tombés dans un pli ou glissés dans une poche ad hoc, pas dissimulés dans le coffrage. La partition était manuscrite. Le propriétaire de l'instrument savait-il qu'elle se trouvait là? À qui appartenait ce violoncelle, au fait? Pas d'étiquette ni d'initiale dans l'étui. Il faudrait que je pose la question à Giancarlo. J'ai poussé le cahier dans un coin et j'ai continué le dépeçage du tissu, en m'attaquant cette fois au couvercle. Il était orné d'une pièce de marqueterie de toute beauté, incrustée de nacre et de palissandre. Ses arêtes étaient bordées de motifs en laiton et en cuir repoussé. À l'intérieur,